Bien, nous allons étudier aujourd'hui la question du délicat équilibre entre les lois et les dispositions. Délicat équilibre, en effet, nous allons le voir, car avant même de nous interroger sur la question de savoir si les lois de la nature doivent être entendues comme des lois contingentes ou éventuellement comme des lois nécessaires, peut-être pour certaines d'entre elles, nous pouvons commencer l'examen en réfléchissant à ce qu'il pourrait tout simplement advenir des lois dans un univers qui serait entièrement régi par des dispositions. Si en effet les dispositions, capacités, pouvoirs sont réelles, si les particuliers du monde sont, pour reprendre la formule de Romare, des acteurs puissants plutôt que des patients impuissants, les lois ne deviennent-elles pas redondantes, voire superflues ? Au mieux, une manière métaphorique de parler. Tel est, par exemple, le diagnostic sceptique que pose Stephen Mumford dans son livre de 2004, Laws in Nature. Invoquer la réalité des lois, ce serait tout simplement la meilleure manière qu'aient trouvé certains, indique-t-il, d'activer un univers humien autrement inactif. En d'autres termes, la plupart des conceptions réalistes qui ont été proposées reposaient sur une métaphysique bien précise, celle d'un monde composé de particuliers discrets, inanimés, qui ont besoin de lois pour l'animer. Or, c'est cela, dit-il, qui crée d'emblée le problème. Supposons à l'inverse que nous considérions les particuliers du monde comme des particuliers liés et actifs, nous n'aurons plus besoin dès lors de lois. Bref, accepter les lois, c'est accepter le problème qu'elles résolvent. Mieux vaut donc n'accepter aucun des deux, faute de quoi on est condamné à ce qu'il présente comme un dilemme central. Le dilemme est le suivant. On peut en effet considérer, soit, premièrement, que les lois ont un rôle déterminant ou régulateur, soit, deuxièmement, qu'elles n'ont aucun rôle, auquel cas on admet ce qui sera son choix, le principe d'une métaphysique anomique, qu'il appelle, nonobstant, réaliste, realistic lawlessness. Mais si on adopte la première réponse, c'est-à-dire si on accorde un rôle déterminant ou régulateur aux lois, alors ces lois ou bien sont extérieures aux choses pour lesquelles elles jouent ce rôle, ou bien elles leur sont internes. Or, dans un cas comme dans l'autre, on se heurte alors à des difficultés, selon Mumford, insolubles. Revenons un peu, en effet, sur l'univers humien-lewisien. Un univers, vous en souvenez, constitué de mosaïques d'événements inertes, sans aucun lien entre eux, et surtout pas de lien susceptible de manifester une quelconque nécessité d'errer. On n'y trouve que des conjonctions que l'habitude nous fait certes prendre pour des nécessités, mais qui ne recouvrent rien d'autre que des régularités. Les lois elles-mêmes sont contingentes. On peut du reste se demander s'il s'agit d'une conception régulariste des lois. C'est la remarque que fait notamment Statis Psilos en étudiant cette question, où si plutôt qu'à une théorie des lois, on n'a pas affaire à proprement parler à une théorie qui refuse leur existence même, comme le remarque Mumford. Eh bien, on retrouve à peu près les mêmes difficultés dans les versions contemporaines restées fidèles à cette conception humienne, au premier rang desquelles la théorie des meilleurs systèmes, qui est une jonction des thèses dues à John Stuart Mill, à Frank Ramsey et à David Lewis. Une loi est alors comprise comme faisant partie d'un compte-rendu systématique du monde. Alors, assurément, dans une perspective holistique comme celle-ci, on cherche à faire en sorte que, on essaie de faire en sorte que les lois soient cohérentes et qu'elles s'inscrivent donc dans un système. Dès lors, vous voyez tout de suite les avantages d'une conception de ce genre. Cohérence, systématicité, compatibilité avec les sciences, au sens du moins de l'adéquation empirique. En outre, si l'on attend des lois qu'elles soient en effet régulières, on ne leur demande pas d'être des lois causales. La nuit suit le jour, la pluie suit la chute du baromètre. Voilà des exemples de lois. Mais les limites d'une approche de ce genre sont tout aussi claires. Tout lien interne se perd désormais entre ces phénomènes régulièrement reliés. On a affaire à des régularités et pas du tout, n'est-ce pas, à des nécessités. Soit. Mais est-ce que cela suffit vraiment à constituer des lois ? L'objection ici est de David Armstrong. Comment en particulier de simples régularités peuvent-elles expliquer leurs instances ? Enfin, de quels critères dispose-t-on alors pour faire le départ entre des régularités accidentelles et des généralisations authentiques ? Pour rendre compte des lois probabilistes ou encore des régularités qui ne s'appliquent qu'à de rares cas, voire seulement à un seul. Car les difficultés qui touchent ici, non les énoncés d'identité a posteriori du type « l'eau est H2O » ou « température égale énergie cinétique moléculaire moyenne », mais des lois comme « toute eau bout à 100 degrés Celsius » ou « tous les canards ont des pieds palmés » sont bien connues. Leur identification à des énoncés conditionnels universellement quantifiés est vouée à l'échec. Donc, le point de vue des lois comme régularité se heurte, on le voit, au double défi. D'une part, de distinguer des régularités qui sont de pure coïncidence de régularités nomologiques, ce qu'améliore, certes, mais sans la résoudre, la théorie de la régularité systématique de Lewis à la suite de Ramsey, puisque dans la théorie Ramsey-Lewis, une généralisation énonce une loi si et seulement si elle est déductible de la systématisation axiomatique des faits qui dépendent de façon optimale, qui combinent pardon, de façon optimale force et simplicité. Mais comme le fait remarquer Alexander Bird dans la critique qu'il effectue dans Nature's Metaphysics de cette conception des meilleurs systèmes. Je le cite, « Bien que cela réduise la force de l'objection visant les régularités accidentelles, cela ne l'élimine pourtant pas complètement, car nous pourrions imaginer un système de loi qui soit lui-même assez compliqué et fiable, tout en engendrant une régularité accidentelle, dont l'addition au système axiomatique pourrait en fait considérablement ajouter à la force, sans lui ôter beaucoup de sa simplicité globale. » Fin citation. On trouvera aussi cette objection et d'autres à la conception de la régularité dans le livre d'Armstrong de 1983. Deuxième défi, qui est celui de parvenir à trouver des énoncés de cette forme qui soient vrais, car il n'y en a pratiquement pas. Comme l'a suggéré Nancy Cartwright, les lois de la nature, en tant qu'énoncés généraux, seraient dans leur grande majorité des idéalisations et des abstractions que l'on ne doit pas considérer comme littéralement vraies. Et il n'est pas sûr que la stratégie invoquée de loi ceteris paribus ne se ramène pas, comme on l'a fait souvent remarquer, à une pure et simple tautologie. On comprendra dès lors l'attrait qu'a pu susciter, je viens au point 3 sur votre feuille d'accompagnement, à l'opposé de ces visions régularistes d'inspiration foncièrement humienne, le réalisme nomologique qui leur a opposé l'argument nomologique AN suivant. Les lois sont plus que des régularités, ce sont une addition à l'être et elles jouent un rôle dans la détermination de leurs instances plutôt qu'elles ne sont constituées par elles. C'est grossièrement résumé la position que défend David Armstrong. Selon donc la formulation de l'argument nomologique suivant, il y a un ensemble S de caractéristiques du monde, il y a S parce qu'il y a des lois de la nature. Les lois fondent alors la régularité statistique, mais aussi l'invariance, dit Armstrong, l'ordre, la nécessité, l'universalité. Sans loi, il n'y aurait pas d'ordre. Autant dire qu'il n'y aurait rien ni aucune place pour la science. C'est ça le principe de l'argumentation. Le problème, vous le voyez, est qu'il s'agit là d'un argument indirect. Or, comment exclure que quelque chose d'autre que les lois assure, en quelque sorte, la mise en ordre. C'est à cette difficulté que s'emploie à répondre la théorie dite de la nécessitation naturelle, théorie qu'on abrège en DTA, parce qu'elle est due essentiellement à Gretzky, Tooley et Armstrong. Nous sommes en présence, selon cette position, d'une loi de la nature, lorsque nous avons affaire, disent ses auteurs, à une relation de nécessitation naturelle qui s'applique entre des universaux. Les lois sont donc plutôt de la forme suivante, donc sur la feuille, vous voyez, DTA, N, F, G. Il peut s'agir de lois probabilistes ou de lois qui concernent plus de deux universaux, mais la position suppose, on le voit, une ontologie réaliste qui admet des universaux réels. Que la loi concerne une relation entre les universaux est précisément ce qui explique l'universalité de ces instances. Vous voyez qu'est donc ajoutée dans cette conception des lois la nécessité, qui était absente de la version régulariste, laquelle prenait la forme d'une quantification universelle sur des particuliers. En s'éloignant de la conception selon laquelle les énoncés nomologiques sont des vérités générales, et en y voyant des relations causales valant entre des universaux, la version DTA, ou de nécessitation nomique, constitue donc apparemment un progrès. Dans la mesure où elle affiche des prétentions causales et réalistes qui vont au-delà, n'est-ce pas, des données empiriques. Puisque quand la relation vaut entre deux universaux, elle implique les généralisations correspondantes, même si l'implication, naturellement, ne vaut pas dans l'autre sens. Les avantages des lois Dredske, Thule et Armstrong sautent aux yeux. Elles permettent de distinguer entre régularités accidentelles et régularités authentiquement nomiques. En outre, deuxième avantage, elles expliquent le caractère modal des lois. Elles permettent les contrefactuels et elles évacuent aussi les lois de type goodmanien ou vreuesque, n'est-ce pas ? Bon, je pense que je n'ai pas besoin de réexpliquer ça, ça fait partie des cours de première année. Donc, bleu hier, vert aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vert hier, bleu demain. Bon, vreuesque. Bon, les groupes. Elles expliquent aussi pourquoi les lois ne peuvent avoir de limitations spatio-temporelles, quels sont aussi les liens entre loi et causalité, ainsi que les relations entre les universaux et leurs instances. Ajoutons qu'à la différence des lois conçues comme des régularités universelles, il est possible de les confirmer. Elle n'invite donc pas au scepticisme comme les régularités humiennes. En outre, elles peuvent s'étendre, Armstrong le dit clairement, aux lois probabilistes. Enfin, elles régissent les états de choses particuliers. En revanche, on comprend mal comment la nécessitation nomique implique les généralisations correspondantes, si ce n'est par stipulation. En outre, dans la conception d'Armstrong du moins, même si on rencontre des exceptions, puisque Armstrong envisage la distinction entre ce qu'il appelle les lois de chaîne, Oaken Laws, hein, qui sont défaisables, par opposition aux lois de fer, comme chez Hume et chez David Lewis, on est obligé, pour, je cite Armstrong, de lire les lois à partir de l'histoire réelle des événements du monde. Fin de citation. Et, vous l'aurez compris, vous en serez douté en tout cas, on reste prisonnier d'une forme d'actualisme. Autrement dit, et Stephen Mumford a bien vu ce point dans son livre, page 256, donc c'est celui-ci, hein, de 2004, la seule existence de la loi réside, dit-il, dans ce que produisent les séquences causales particulières. Et donc, les lois sont déterminées par les événements. Voilà qui provoque une tension. La causalité singulière n'était qu'une échelle nous permettant d'atteindre l'idée de nomicité, laquelle, une fois atteinte, rendait l'échelle inutile. La relation causale fondamentale est une relation nomique valant entre des universaux. Et Armstrong dit à ce propos, la causalité singulière n'est rien de plus que l'instanciation de ce type de relation dans des cas particuliers. Une citation. Mais comme le dit assez justement Mumford, cette dernière phrase suggère à présent une forme de platonisme. Pourquoi ? Eh bien parce que elle suggère une causalité non pas entre des instanciations particulières, mais bien entre des universaux. Bon. Même si, encore une fois, nous savons que pour lui, un universel n'est rien d'autre que la somme de ses instanciations, je ne pense décidément toujours pas, dit Mumford, qu'Armstrong échappe à l'actualisme. La causalité vaut entre universaux, mais ne peut valoir que si les instanciations se trouvent dans la bonne relation. La théorie d'ETA n'est donc pas à l'abri des objections. Elle a notamment la faiblesse, comme l'a encore bien vu Mumford, de même comporter une forme limitée de survenance humienne. Pourquoi ? Elle nous dit en effet qu'il existe une loi si et seulement s'il y a une instance de loi dans une séquence causale donnée. Mais qu'une telle instance existe dépend des propriétés qui sont instanciées. Et donc, la relation entre les lois comme universaux et leurs instanciations est tout sauf claire. Cette relation de nécessitation naturelle qui est invoquée semble sui generis et ad hoc. Pourquoi ? Eh bien parce que, en un sens, on lui demande d'être à la fois nécessaire et contingente. Elle postule que les lois de la nature sont des universaux plutôt que des particuliers, mais pourquoi les relations nomologiques devraient-elles être extérieures à leur relata ? Ne peut-on envisager que F soit relié de façon interne à G ? Si la relation nomique est une relation externe, alors la théorie d'ETA semble impliquer à son tour un quiditisme des propriétés, au moins au sens suivant. Des universaux différents de ceux qui sont réellement nomiquement reliés dans notre monde peuvent se trouver nomiquement reliés dans d'autres mondes. Cela veut donc dire qu'une propriété F pourrait être exactement la même, quand bien même elle figurerait dans des lois différentes de celles dans lesquelles elle figure réellement. Vous voyez que les instances de propriété pourraient dès lors avoir différents rôles causaux. Donc on retrouve un certain nombre de problèmes que nous avions évoqués la dernière fois, liés au quiditisme auquel, en effet, n'échappe pas véritablement la position armstrongienne. Alors, que faire ? N'est-il pas plus simple, en définitive, de chercher à se passer purement et simplement de loi ? Car on peut considérer, après tout, que la science ne cherche pas à réifier les lois, ou que si elle le fait, elle reste neutre quant à leur nature. Et après tout, si la science peut parfaitement continuer son chemin sans loi réelle dans la nature, c'est peut-être parce que ce à quoi la science renvoie, en réalité, ce sont plutôt à des capacités ou à des pouvoirs causaux. C'est un petit peu la direction vers laquelle nous orientent par moments des auteurs comme Haré et Madden ou encore Nancy Cartwright. Bon, alors soit, suivons le dispositionnaliste dans ses derniers retranchements. Admettons, du moins pour le moment, qu'il ait réussi à répondre à la première des difficultés que nous avions évoquées, vous vous en souvenez, qui n'était quand même pas mince, à savoir qu'il ait réussi à faire monter dans le wagon, si j'ose dire, des propriétés dispositionnelles, les propriétés géométriques. Qu'il ait aussi réussi à répondre à la seconde, c'est-à-dire le risque berkeleyen d'idéalisme d'univers délavé. Et parions généreusement sur son ontologie moniste des propriétés dispositionnelles. Allez, iacta est. Bon, il reste quand même un problème de taille à résoudre, évidemment. Quels critères, quels vérifacteurs pourra-t-il invoquer pour déterminer la réalité des dispositions à ce moment-là, sans tomber dans l'idéalisme intentionnaliste, le recours à la base, les fameuses propriétés de second ordre dont nous avons vu que nous ne voulions pas. Si on veut donner donc aux dispositions les moyens et la force de fonctionner comme une explication causale, quel sera l'élément explicatif déterminant qui permettra vraiment de les identifier? La capacité causale intrinsèque de la dite propriété, sa capacité interactionnelle et donc relationnelle, ou le fait malgré tout qu'elle s'inscrive toujours, d'une manière ou d'une autre, sous la juridiction d'une loi de la nature. Je vous rappelle incidemment que la théorie causale des propriétés, tout de même, qui est particulièrement bien illustrée par Sidney Shoemaker, a énormément d'attrait. Notamment, vous vous en souvenez, elle a le mérite d'interdire de simples changements cambridgiens, hein, puisque elle permet de reprendre le critère suivant. Un universel physique existe si et seulement si il est un membre de la toile causale. Si oui, alors il existe, qu'il soit ou non instancié. Bref, la valeur explicative du recours aux dispositions réside de manière caractéristique dans leur efficacité causale et dans le fait qu'elles soient des propriétés. Je vous rappelle le critère causal d'existence pour une propriété donnée par Mumford. Pour n'importe quelle propriété abstraite intrinsèque P, P existe si et seulement s'il y a des circonstances C dans lesquelles les instanciations de C ont des conséquences causales. Dans Dispositions, page 122. Je ferai remarquer que certains philosophes, naturellement, n'acceptent pas ce critère causal comme étant un critère d'existence pour une propriété et lui préfèrent, mais je pense qu'ils ont tort, parce que le critère me semble beaucoup plus problématique, mais le critère de la ressemblance, n'est-ce pas ? Bien. Donc, d'accord pour le critère causal d'existence comme critère définitionnel de ce qu'est une propriété. Bon. Si en outre, comme le pense le dispositionnaliste, nous estimons que les lois ne sont pas imposées aux dispositions, mais vous vous en souvenez qu'elles en découlent essentiellement. Comment rendrons-nous compte, problème, de la nécessité qui, semble-t-il, caractérisera alors ces lois? Sans doute la version contingentiste, hume-ienne ou lewisienne a-t-elle, entre autres conséquences indésirables, de définir l'identité d'une propriété indépendamment de son rôle causal ou nomologique, et de rester plutôt obscure sur la nature des propriétés, ce qui semble éviter si les lois sont nécessaires, puisque les lois et leurs instances n'ont plus dès lors d'existence indépendante. Mais que gagnons-nous au juste à soutenir une conception dispositionnaliste des lois? Les lois peuvent-elles encore jouer un rôle dans ce cadre qui les qualifie comme des lois réelles, comme des principes actifs dans la nature. Par ailleurs, une telle nécessité appliquée aux lois n'est-elle pas, à son tour, assez contre-intuitive? Bon, alors, il faut regarder tout cela, évidemment, d'un petit peu plus près. Nous en sommes au point 6. En tout cas, étant donné tous les mérites que nous n'avons cessé de mettre en valeur du dispositionnalisme, et notamment du dispositionnalisme essentialiste à la Brian Ellis, vous vous en souvenez, il est clair que la tentation est forte d'y souscrire. Je rappelle que cette position permet d'une part, de donner aux attributions de disposition un rôle explicatif et de concevoir les dispositions comme des unités explicatives, ce qui, métaphysiquement, a aussi des mérites évidents, puisque le premier d'entre eux est de contenir une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, une mêmeté d'essence dispositionnelle, alors qu'une position qui admet des propriétés catégoriques implique quelque chose, vous vous en souvenez, comme une identité primitive, qui serait indépendante de tout lien causal ou nomologique, et ce qui nous entraînerait dès lors vers une forme de quiditisme. Quiditisme problématique, je le rappelle, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il permet pour les propriétés l'échange de leurs pouvoirs causaux, n'est-ce pas ? Or, il y a de bonnes raisons de douter que la possible duplication des rôles causaux soit quelque chose de concevable. Il est douteux, autrement dit, que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Ensuite, le quiditisme a pour conséquence fâcheuse d'induire un scepticisme généralité quant à la possibilité de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne à l'humilité, comme le reconnaît du reste David Lewis, qui ne craint pas, néanmoins, comme on sait, de revendiquer une ontologie fondamentale extraordinairement austère. Bien. Deuxième mérite du dispositionnalisme, c'est qu'il nous permet aussi, vous vous en souvenez, de mieux nous faire comprendre le rôle exact des lois dans la nature. En effet, si on suit Ellis, dès lors qu'on affirme que les lois de la nature sont directement produites par les essences dispositionnelles, nous évitons aussi bien les inconvénients de la conception régulariste ou humienne des lois, qui est, nous venons de le voir, incapable d'expliquer les instances de celles-ci, que nous évitons également les inconvénients de la conception nécessitariste nomique soumise au problème de l'identification et de l'inférence. Je précise rapidement de quoi il s'agit quand on parle du problème de l'identification. C'est, pour ceux d'entre vous qui seraient un petit peu moins familiers avec ces thèmes de philosophie des sciences, c'est lié notamment à une objection que fait Bas van Frassen à propos du concept de nécessité physique. Van Frassen demande qu'est-ce qu'on entend par nécessité physique ? Supposons qu'on compare la nécessité physique à la nécessité juridique ou morale. Quelque chose sera dit moralement nécessaire, obligatoire, s'il découle de quelque ensemble de principes moraux. Quelque chose est juridiquement nécessaire s'il découle de lois. Mais en pareil cas, nous avons un ensemble de principes préalablement établis. Dans le cas de la nécessité physique, l'ensemble des principes d'où découlent les événements physiquement nécessaires, ce sont les lois de la nature elle-même que nous avons. Il faut donc, dit Van Frassen, un argument indépendant pour expliquer pourquoi ce sont ces principes et pas d'autres qui sont physiquement nécessaires. Or, rien de tel, selon lui, ne se profile à l'horizon. Donc vous voyez qu'évidemment, la conception nécessitariste a le grand mérite de faire passer, si j'ose dire, le problème de l'identification à la trappe. Bien. La conception dispositionnaliste, excusez-moi, a l'avantage de faire passer ce problème à la trappe. Et justement, c'est bien pour toutes ces raisons que Alexander Bird dit à quel point il considère qu'il vaut même mieux préférer une conception moniste dispositionnelle ou pan-dispositionnaliste, si vous voulez, de préférence à une position mixte du genre de celle de Martin, par exemple, que nous avions vu la dernière fois. Même si cette position mixte a les avantages du premier, du monisme dispositionnel, elle a encore l'inconvénient de présupposer certaines quidités et donc de se heurter aux objections que l'on fait au quiditisme. Ensuite, comme elle reste un dualisme des propriétés, elle a pour défaut d'être moins économique que les conceptions monistes. Cela vaut donc la peine, considère Bird, de poursuivre la position moniste dispositionnelle en dépit des critiques répétées dont elle a fait l'objet. Positivement, en effet, dit-il, elle permet de mieux rendre compte aussi de la force modale associée aux lois et d'y voir une nécessité métaphysique. Donc, les dispositionnalistes, si vous voulez, préfèrent suggérer que la nécessité en cause est métaphysique et non physique. Les lois sont des relations métaphysiquement nécessaires entre des propriétés ou entre une propriété et une espèce. Ce qui fait d'un objet un membre d'une certaine espèce ou le porteur de certaines propriétés, c'est la possession par cet objet de certaines propriétés, y compris de certaines dispositions comportementales. Vous vous souvenez que pour Kripke et Putnam, il est métaphysiquement nécessaire que l'eau soit H2O ou que l'or ait le nombre atomique 79. Eh bien, on dira de même qu'il est métaphysiquement nécessaire que l'eau dissolve le sel et que l'or soit un conducteur électrique. Bon, il y a tout lieu, semble-t-il, de privilégier une analyse dispositionnaliste des lois au lieu de ce que Mumford intitule le point de vue des lois, conformément auquel les lois, conçues comme des conjonctions ou des nécessitations naturelles d'événements, seraient les soubassements de l'explication. À l'inverse, le dispositionnaliste est quelqu'un qui essaie de se passer des lois de la nature, je souligne, qui essaie de se passer des lois de la nature, en fondant les nécessités naturelles dans les propriétés individuelles elles-mêmes instanciées. On gagne aussi à y voir des moyens de permettre ou d'offrir, ce qu'on appelle en anglais des affordances, des enablements, ce qui contribue à transmettre l'idée dispositionnelle de médiation causale entre des événements. De la sorte, conclut Mumford, page 220-221 de Dispositions, nous avons les nécessités naturelles sans être obligés de souscrire à des lois générales recouvrant des classes d'événements. À la différence des nécessités générales, la nécessité naturelle se présente au niveau du particulier. Ce n'est pas en vertu d'une loi générale que le sucre, par exemple, se dissout lorsqu'il est dans un liquide. S'il le fait, c'est en vertu d'un état particulier ou d'une propriété instanciée que possède cet échantillon. Fin de citation. À diverses reprises, Mumford a souligné, de manière plutôt convaincante, les avantages d'une telle analyse dispositionnaliste des lois par rapport aussi bien à la thèse jungienne de la survenance, principalement défendue par Lewis, qu'à la théorie d'ETA des lois, qui, tout en s'opposant au point de vue jungien, puisqu'elle fait des lois des choses réelles dans la nature, impliquant des connexions nécessaires entre propriétés, conserve encore, comme on l'a vu, certains vestiges de la métaphysique jungienne. Mumford pense de manière, je trouve, plutôt convaincante encore, qu'une conception correcte des lois doit se trouver ailleurs, dit-il, entre régularité et conformité. Terme qu'il utilise, c'est « twixt regularity and regulation ». À savoir, entre la thèse régulariste descriptive et la thèse, au fond, théologique, qui insiste sur la conformité des lois, celle-ci devant obéir aux prescriptions divines. Pour se présenter comme la bonne interprétation des lois, à mi-chemin entre description et prescription, des lois qui, je le cite dans Laws in Nature, lient le possible et le nécessaire, mais non pas l'actuel, dans le monde naturel auquel elles s'appliquent, donc, eh bien, pour se présenter comme une bonne interprétation des lois ainsi entendues, un point de vue dispositionnaliste, dit-il, semble le plus approprié. Et il donne comme explication l'exemple suivant. Au lieu de dire, par exemple, « tous les corbeaux sont noirs », on renonce à l'exigence selon laquelle les conditionnels associés à des énoncés nomologiques doivent être universellement quantifiés, et l'on dit seulement « les corbeaux sont noirs sans quantification ». Page 255. Celle-ci est inutile si nous comprenons qu'un tel énoncé ne porte pas explicitement sur une quantité nombrable de corbeaux, mais sur la coloration dispositionnelle normale de l'espèce. Bon. Selon Mumford, une telle manière de voir les choses cadre avec la pratique scientifique. En effet, lorsque le scientifique trouve un échantillon typique d'une espèce ou d'un genre de chose, puis dans des conditions soigneusement contrôlées, découvre une propriété dispositionnelle naturelle de cette chose, peu lui importe au fond d'amasser toujours plus de cas de corbeaux noirs. Ne le trouble pas davantage l'existence de cas étranges comme celui d'un corbeau albinos. Ainsi, une notion comme celle de comportement naturel des choses nous fournit au fond toute la conformité voulue pour nos lois. Cela nous donne une idée de ce que veut dire pour des objets que d'être régis par des principes naturels qui les gouvernent. Laws in Nature, page 258. En fait, soutient Mumford, je le cite, « à cause de la force dispositionnelle de tels principes gouvernants, ces dispositions n'ont pas besoin d'être manifestées, qu'elles soient manifestées ou non, dépend des contingences de l'histoire du monde, du fait que les bonnes conditions du stimulus sont réalisées et que les conditions correctes de l'arrière-plan, par exemple, sont correctes. » Fin de citation. En deuxième lieu, ce que les lois sont censées le mieux décrire, poursuit-il, ce ne sont pas les événements réels ou possibles, mais les capacités des choses. Ainsi, la vérité de l'affirmation selon laquelle une pièce non biaisée a 50 chances sur 50 de tomber sur pile ou sur face est vraie non pas en vertu du résultat de tel lancer ou de telle suite de lancers, mais en vertu de la propension qu'a la pièce de tomber sur pile ou surface. On peut ainsi expliquer la loi probabiliste par le fait qu'elle décrit une disposition réelle, et l'analyse explique aussi la possibilité de lois non réalisées. L'attribution de disposition est vraie de la pièce si elle n'est jamais testée, et il peut ainsi y avoir deux attributions vraies bien que différentes dans deux mondes où tous les événements coïncident. Fin de citation, page 231. Enfin, cette théorie des lois rejoint le desideratum qui était donc de situer les lois, vous voyez, quelque part entre régularité et conformité. Il y a un sens où les lois concernent des principes gouvernants, ce qui devrait être le cas naturellement, mais ces principes gouvernants ne sont pas complètement détachés du monde. Ils sont en quelque sorte enchâssés dans les propriétés naturelles des membres d'une classe, d'un genre ou d'une sorte. Voilà pourquoi cela peut s'appeler encore une théorie descriptiviste des lois. Les lois, en d'autres termes, sont des descriptions de ce qui est naturel pour des classes de particuliers, mais ce ne sont pas des descriptions d'événements. Ce sont plutôt des descriptions de ce que peuvent faire les objets, peuvent étant pris dans un sens, vous le voyez, dispositionnel. Page 259. Bon. Alors, pourquoi dans ce cas ne pas suivre purement et simplement le dispositionnaliste essentialiste? Pour plusieurs raisons, mais qui ne sont pas forcément celles que certains de ses détracteurs, dont Mumford, ont données. J'en viens donc au point 7, aux limites du dispositionnalisme essentialiste. Deux types d'objections, en effet, ont été invoquées à l'encontre de l'essentialisme dispositionnel, mais dont je ne suis pas sûre qu'elles soient les bonnes. Bon, je vais d'abord dire quelles elles sont. Elles portent d'une part sur l'essentialisme et elles portent d'autre part sur le nécessitarisme des lois qui l'implique, vous voyez, certaines au moins des lois de la nature, en effet, ayant, comme je viens de le dire, une nécessité métaphysique. Prenons le premier point, les premières objections sur le supposé essentialisme des lois. Les premières objections sur ce plan sont essentiellement dues à Stephen Mumford et à Alice Drury. C'est pourquoi j'ai rajouté dans la bibliographie les textes d'Alice Drury qui ont notamment un excellent article où elle, qui s'appelle « Essentialism and the Necessity of the Laws of Nature », paru dans Synthèse en 2005, qui est tout à fait remarquable et qui explique très bien justement les limites possibles, vous voyez, d'une conception de cette nature pour les premières raisons donc, que je voudrais essayer d'expliquer. Alors, pour Mumford, si vous voulez, les premières objections, donc dues à Mumford et à Drury, consistent à reprocher à l'essentialisme dispositionnaliste d'être précisément un essentialisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour des raisons différentes selon l'un et selon l'autre. Bon. Pour Mumford, et c'est ça qui va nous guider peut-être justement dans le bien fondé ou non finalement de ces objections et ce qu'il convient ou pas de garder, n'est-ce pas ? Bon. Pour Mumford, la position d'Ellis, en effet, en dépit de ses grands mérites, repose sur une notion, selon lui, plutôt obscure d'essence, à laquelle il vaut mieux préférer celle, censée être plus claire, d'espèce naturelle. Car, dit Mumford, il est toujours possible d'accepter des espèces naturelles dans notre ontologie sans accepter leurs essences correspondantes. page 420, dans l'article publié dans la même revue de synthèse 2005, consacré justement à la discussion de l'essentialisme dispositionnel de Ellis. Vous avez là toute une série d'articles, donc de Drury, de Mumford, de Brian Ellis qui répond à ses objecteurs, etc., de Alexander Byrne notamment. Donc c'est un numéro tout à fait fondamental. Alors, donc l'idée, si vous voulez, c'est que c'est parce que la notion d'essence est beaucoup plus obscure que la notion d'espèce naturelle qu'il faut plutôt se méfier de la position essentialiste de Ellis. Quant à Alice Drury, elle reproche moins à Ellis de recourir au concept d'essence que de confondre ce concept, et là elle retrouve des objections assez classiques qui sont faites, je vais y revenir, de confondre ce concept avec celui de nécessité, ce qui ne lui permet pas, selon elle, de l'utiliser ensuite pour fonder ce qu'il est censé faire, à savoir la nécessité des lois de la nature. Bon, je pense que la critique dont fait l'objet la confusion de l'essence avec la notion modale de nécessité est bien connue, mais j'en rappellerai tout de même le ressort. Lorsque nous disons d'une substance individuelle ou d'une espèce qu'elle a une ou des propriétés essentielles, nous pensons à une ou à des propriétés que doit posséder une substance ou un objet pour être un membre de cette espèce et qui ne peut ou ne peuvent faire défaut à cette essence individuelle ou à aucun membre de l'espèce. Autrement dit, les propriétés essentielles d'une substance individuelle sont celles qui font d'elle l'objet qu'elle est et qui ne peuvent changer, à la différence de ses propriétés accidentelles, n'est-ce pas ? Donc qui ne peuvent changer sous peine, n'est-ce pas, de faire d'elle, cette substance, un autre objet. Cette idée, comme Locke l'a montré dans sa conception de l'essence réelle, peut s'étendre aux espèces. Intuitivement, les propriétés essentielles d'une espèce sont les propriétés de ses membres, celles qui font de ces individus les membres de cette espèce, je répète, et pas d'une autre. Pour Locke, les substances particulières gagnent en quelque sorte leur essence réelle de façon dérivée par leur appartenance à une espèce. Comme il est dit dans l'essai 2.23.6, l'essence réelle est, je cite Locke, « ce par quoi elles sont de telle ou telle espèce ». Mais vous voyez que l'essence a aussi une valeur explicative ou définitionnelle. Autrement dit, elle explique les autres propriétés qu'ont et que doivent avoir, vous noterez la modalité, les membres de l'espèce. Une propriété essentielle d'une espèce est une propriété que doit posséder un objet pour être un membre de cette espèce et qui ne peut faire défaut à aucun membre de l'espèce. Les essences d'espèces donnent donc des conditions nécessaires et suffisantes à l'appartenance à l'espèce. Si Locke a raison, alors, comme le dit très justement Alice Drury, il est clair qu'il faut distinguer, comme y ont d'ailleurs insisté de nombreux auteurs, parmi lesquels Kit Fine, entre, je l'ai mis sur la feuille d'accompagnement, première définition, F est une propriété nécessaire de A, si et seulement si A a F dans tous les mondes possibles qui incluent A. Et deuxième définition, F est une propriété essentielle de A, si et seulement si le fait d'être F est constitutif de l'identité de A. voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Or, pas plus qu'un certain nombre d'essentialistes contemporains, en particulier à la suite de Kripke et de Putnam, Ellis n'estime que la distinction entre l'essence d'une chose et les propriétés nécessaires de cette chose mérite d'être faite. Pour Kripke et Putnam, je le répète, dire que l'eau est essentiellement H2O, c'est dire que dans tout monde où il y a de l'eau, elle est composée de H2O. Et que dans tout monde où on trouve la bonne configuration, H2O, c'est de l'eau. Peut-être n'est-il pas inutile que je rappelle brièvement le sens tout de même de cette critique du modalisme appliquée à l'essence que vous trouvez justement chez de nombreux auteurs, dont Kit Fine, mais que je trouve superbement illustré en particulier par l'article d'un logicien médiéviste tout à fait remarquable qui est Giulia Clima, dans un article où il compare justement la différence entre l'essentialisme aristotélicien et les formes d'essentialisme contemporain. Il consacre des pages lumineuses justement entre les approches contemporaines, donc post-kripkéennes ou modales, et selon lui, trop faibles, vous voyez, sur le mode X est essentiellement F égale nécessairement si X existe, alors X et F dans tout monde où X existe, et l'approche aristotélicienne ou thomasienne de l'essence. Les premières, disent Clima, mettent la charrue avant les bœufs et ont entre autres défauts celui de dire que tout ce qui est existe essentiellement. Or, intuitivement, peu d'êtres sont suffisamment fortunés pour compter leur existence comme faisant partie de leur essence. Étant donné que l'on cherche à expliquer l'essence en termes de propriétés essentielles plutôt que l'inverse, on ne peut sûrement pas invoquer l'essence pour s'efforcer de mener à bien la tâche première qui est la sienne, telle que la présentent les critiques anti-essentialistes, et qui est de fournir une raison pour laquelle on doit tenir pour essentiel aux choses dont ils sont réellement vrais certains termes communs. Si bien que, alors que les questions qui se posent dans ce cadre ne peuvent pas être réglées pour des raisons logiques, elles ne peuvent non plus être, dans le même cadre, réglées pour des raisons métaphysiques. L'approche modale, explique Clima, ne semble pas suffisante. Il est peut-être facile de trouver des propriétés jugées essentielles selon le critère modal, c'est-à-dire des propriétés qui, pour parler comme Kripke, seraient des désignateurs rigides d'un objet, mais que, pour autant, personne ne tiendrait pour essentiel au sens fort où il caractériserait ou exprimerait d'une façon ou d'une autre la nature de la chose. Prenez par exemple Socrate et le singleton dont l'unique membre est Socrate. Si vous suivez l'analyse kripkéenne, il serait essentiel et pour le singleton de contenir Socrate et pour Socrate d'appartenir au singleton. Pourtant, on voit mal ce que cela a à voir avec la nature de Socrate d'appartenir ou de ne pas appartenir à quelque ensemble que ce soit. Socrate serait sûrement et la même chose et la même sorte de choses, même s'il n'y avait pas d'ensemble. Point n'est du reste besoin de faire appel à de tels objets abstraits. Considérons deux objets distincts, tels que Socrate et la tour Eiffel. C'est un exemple notamment que reprend Kit Fine dans son article Essence and Modality. Si on suit ici encore l'analyse kripkéenne, chacun aurait nécessairement la propriété d'être distinct l'un de l'autre. Mais pourquoi diable cet être distinct de la tour Eiffel devrait-il appartenir à la nature de Socrate ? En général, vous voyez, l'analyse kripkéenne rend n'importe quelle propriété nécessaire essentielle à quoi que ce soit, aussi extrinsèque que soit une propriété à la chose en question. Mais cela signifie, par exemple, qu'il vous serait essentiel d'être soit en train de lire, soit en train de ne pas lire cet article, ou bien, si vous êtes en train de le lire, alors vous êtes en train de le lire, ce qui, selon une lecture plus forte de essentiel, voudrait dire que ses propriétés et avec elles, cet article, en quelque sorte, appartiennent à et donc constituent votre nature. Ce qui, on en conviendra avec Climat, est relativement absurde. Comme l'observait saint Thomas, l'essence d'une chose qui détermine quelle sorte de chose elle est, détermine à quelles espèces d'entités appartient la chose en question. C'est pourquoi quiconque nierait que les choses aient une essence, et il faudra nous en souvenir, serait obligé de nier qu'il y ait une différence spécifique entre elle ou lui et, disons, un âne ou un chou. Mais alors, cela ne vaudrait pas plus la peine de parler à une telle personne qu'à un âne ou qu'à un chou. Pour ces raisons et d'autres raisons métaphysiques du même genre, mais aussi pour les raisons empiriques écrasantes, oserais-je dire, que nous livre l'expérience, en faveur du fait que les choses se présentent selon différentes sortes, on peut donc sans craindre conclure que les choses qui se trouvent dans notre réalité actuelle, eh bien, ont peut-être bien des essences. Voilà. Donc, je vous ai pris, évidemment, le texte d'un lecteur de saint Thomas, mais j'ai souhaité vous prendre la démarche parce que vous voyez qu'elle, en même temps, elle repose exactement sur des critiques du même type dans la manière dont on peut reprocher, comme le font aujourd'hui des auteurs comme Kit Fine, vous voyez, cela à la conception modale qui s'exprime dans les conceptions telles que les versions kripkéennes ou putnamiennes de la nécessité. Bon. Alors, cette digression importante, je crois, est en fait, je pense que vous comprenez le reproche qu'on est en droit d'adresser à l'essentialisme et sur lequel s'appuie, comme d'autres auteurs contemporains, Brian Ellis. De même, Ellis pense que les électrons sont essentiellement des électrons s'ils sont essentiellement des porteurs d'une certaine masse, vous vous en souvenez, d'une certaine charge, d'un certain spin. En d'autres termes, que dans tout le monde où il y a des électrons, ils ont ces dispositions, et dans tout monde quel qu'il soit, s'il y a des choses qui ont ces dispositions, il y a des électrons. Ainsi, n'importe quelle propriété qu'un membre d'une certaine espèce ne pourrait manquer d'avoir, est, dit-il, une propriété essentielle de cette espèce. Et une propriété essentielle d'une espèce, eh bien, c'est simplement une propriété qu'aucun membre de cette espèce ne pourrait manquer d'avoir. Mais si vous avez suivi la critique que je viens de faire, vous approuverez la remarque aussi que fait Alice Drury contre Ellis, à savoir que si Ellis adopte bien une telle conception de l'essence, vous voyez, alors il ne peut y avoir aucune priorité ontologique de l'essence sur les lois. Pourquoi ? Eh bien parce que le vérifacteur d'une loi causale, tous les F sont des G, n'est pas juste supposé être que tous les F ont la propriété dispositionnelle G, car cela pourrait être fort bien le produit d'un accident. C'est que la propriété G est une propriété essentielle de l'espèce. Or, comme on l'a vu, les propriétés essentielles sont simplement celles qu'un membre d'une espèce ne peut manquer d'avoir. Partant, Le vérifacteur de tous les F sont des G est le fait que les F ne pourraient pas manquer d'être des G ou qu'il est métaphysiquement nécessaire, en d'autres termes, que tous les F soient des G. Alors, on peut appeler ce fait modal une essence, mais le décrire ainsi ne le rend pas pour cela, comme le dit justement Drury, ontologiquement plus fondamental. Du reste, pour voir que l'essentialisme dispositionnel ainsi conçu par Ellis est insuffisant pour fonder la nécessité des lois de la nature et que la possession d'une disposition est en soi insuffisante pour servir de vérifacteur d'une loi métaphysique nécessaire, il suffit de comparer l'argument de Lewis avec les arguments invoqués par d'autres dispositionnalistes, comme Nancy Cartwright ou Ian Lipton, par exemple, à propos justement de la question de la manière dont ils interprètent la supposée nécessité des lois de la nature. Que disent ces auteurs? Eh bien, même si la position d'une capacité explique pourquoi un objet se comporte d'une certaine façon, elle ne peut expliquer pourquoi il doit se comporter de cette façon. Que l'objet possède une disposition ou que tous les membres d'une certaine espèce possèdent une certaine disposition pourrait fort bien être quelque chose de contingent. Telle est la conception des lois, justement, que développent aussi bien Lipton que Cartwright. Selon eux, les capacités des choses donnent lieu à des lois, et c'est cela qui explique pourquoi certaines lois ne valent que ceteris paribus, n'est-ce pas ? Puisque les dispositions peuvent fort bien ne pas se manifester. Mais ces lois n'ont pas besoin d'être nécessaires. Cartwright et Lipton ne proposent aucun argument en faveur de l'idée selon laquelle il serait essentiel aux choses d'une certaine espèce, vous voyez, de posséder une capacité. Il peut fort bien s'agir d'une généralisation contingente, autrement dit. Bref, pour que l'on ait un vérifacteur d'une loi métaphysiquement nécessaire, il faut pouvoir dire que la disposition est possédée nécessairement ou fait partie de l'essence réelle de l'espèce. Ainsi, ce qui fait d'une loi que le cuivre conduit l'électricité une loi nécessaire, c'est le fait que, pour être du cuivre, quelque chose doit être disposé à conduire de l'électricité. Rien ne pourrait être du cuivre et manquer, dit Ellis, d'avoir ce pouvoir causal. Pour des essentialistes de l'espèce comme Ellis, la vérité et la nécessité des énoncés causaux nomologiques se fondent donc, vous le voyez, sur des énoncés portant sur les essences de telles espèces. Un tel vocabulaire de fondement suggère que les essences sont en un sens donc ontologiquement premières par rapport aux lois. Mais cette affirmation sur la relation entre les lois et les essences est, vous le voyez, tout à fait indépendante en réalité de l'affirmation selon laquelle les dispositions sont les vérifacteurs des énoncés nomologiques. Cartwright et Lipton sont d'accord sur le dernier point, mais ils n'accordent pas le premier. L'affirmation de l'essentialiste de l'espèce est donc celle-ci. Les énoncés nomologiques, qu'ils concernent ultimement des dispositions ou non, sont vrais et métaphysiquement nécessaires en vertu du fait que certaines espèces de choses ont une certaine essence. Simon Ford et Drury ont raison dans leurs critiques respectives de Ellis. Alors, sans doute faudra-t-il que nous cherchions ailleurs un modèle pour défendre un réalisme des dispositions. C'est dommage, mais c'est ainsi. Mais sans doute, cela signifiera-t-il aussi qu'il n'est pas pour cela nécessaire, si j'ose dire, de là encore d'aller dans le chemin directement opposé et de défendre une forme de dispositionnalisme anomique du type de celui que préconise Mumford. Bref, de défendre un dispositionnalisme qui fasse nécessairement l'économie et du principe de la nécessité des lois de la nature et de l'essentialisme. En tout cas, peut-être pas. Vous voyez, je laisse cette question en suspens, mais je vais quand même déjà montrer pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller trop dans ce sens non plus. J'en arrive donc à un deuxième groupe d'objections, mais que j'adresse cette fois non plus à Ellis, mais à Mumford lui-même. Et donc à la difficulté, à mon sens, qu'il y aurait à proposer dans un cadre dispositionnaliste, vous voyez, l'idée d'une certaine nécessité naturelle qui permettrait de faire totalement l'économie du recours aux lois. Vous voyez, et ça, c'est la position, justement, du réalisme anomique mumfordien. Bon, pourquoi ? D'abord parce que, même en admettant que le concept d'espèce naturelle soit moins obscur que celui d'essence, j'aimerais bien en être sûr. Pour le moment, admettons. Il est douteux qu'un dispositionnalisme bien compris puisse s'appuyer sur le seul concept de nécessité naturelle et se dispenser, comme souhaite le faire Mumford, afin justement, vous vous en doutez, de préserver le contingentisme humien, de tout recours aux lois. Sans doute vaut-il mieux finalement carrément s'en passer, plutôt qu'en arriver à soutenir ainsi qu'il le fait, pour, je dirais, essayer de faire le grand écart entre Ellis et Hume, que même chez le premier, je le cite, « la contingence logique abonde dans ses lois et que tel qu'il voit les choses, il n'a même pas besoin de faire appel à un autre monde possible pour l'illustrer. Les lois de la nature, dit-il, pourraient changer progressivement ou instantanément. Mes lois ne sont fixées que par ce que les choses font, peuvent faire au présent. Ainsi, les corbeaux sont noirs maintenant, signifie qu'il est vrai, du genre corbeau, que ses membres normaux sont dispositionnellement noirs. Mais demain, par une intervention divine, les corbeaux normaux pourraient devenir dispositionnellement roses. Plus naturellement, après un certain temps, les corbeaux normaux pourraient devenir gris par un processus d'évolution. On pourrait penser que seules les lois dérivées non fondamentales peuvent subir une telle altération. Mon traitement laisse ainsi ouverte la possibilité que même les lois fondamentales puissent changer. » Fin de citation. Alors, comme l'a fait, avec beaucoup de bon sens, je dois dire, remarquer Michael Esfeld, si l'on veut défendre sérieusement une métaphysique des propriétés comme disposition ou pouvoir, alors, cela implique bien que, je cite Esfeld, « l'essence d'une propriété détermine le rôle causal qu'exercent les occurrences du type en question. Par conséquent, dans chaque monde possible dans lequel des occurrences du type de propriété en question existent, celles-ci engendrent spontanément des effets du même type, pourvu qu'il s'agisse de propriétés physiques fondamentales. » Et c'est fin de citation. Et je crois que c'est bien la raison, en effet, pour laquelle la métaphysique des propriétés, entendue comme des dispositions ou des pouvoirs, est une théorie causale des propriétés, tandis que la métaphysique humienne, excusez-moi, c'était encore dans la citation, hein, je m'excuse, donc qu'il s'agisse de propriétés fondamentales. Et Esfeld poursuit, c'est bien la raison pour laquelle la métaphysique des propriétés, entendue comme des dispositions ou des pouvoirs, est une théorie causale des propriétés, tandis que la métaphysique humienne des propriétés catégoriques n'en est pas une. Alors, dans leur dernier livre, Getting Causes from Powers, dont je vous ai parlé la dernière fois, donc Stephen Mumford et Rani Lil Anjum, puisqu'ils ont écrit tous les deux cet ouvrage, acceptent ce genre de nécessité au sens où, disent-ils, le rôle essentiel, le rôle causal est essentiel, disent-ils, à l'identité d'une propriété d'un certain type. Et pour eux, ce type de nécessité ne nous engage pas à reconnaître des connexions nécessaires dans la nature. Mais pour être en mesure de séparer la nécessité au sens où, vous le voyez, un certain rôle causal est essentiel à une propriété d'un certain type de nécessité, au sens de la nécessaire connexion entre la cause et son effet, il faut malgré tout faire deux présuppositions qui sont tout à fait discutables. Premièrement, la manifestation du pouvoir ou de la disposition que constitue une propriété d'un type donné dépend dans tous les cas de conditions externes de manifestation contingente qui peuvent avoir lieu ou non, même dans le cas des propriétés physiques fondamentales. Deuxième présupposition de taille, il peut toujours, même dans le cas des propriétés physiques fondamentales, y avoir des facteurs qui, en quelque sorte, interfèrent pour couper le lien entre la cause, le pouvoir qui s'exerce, et son effet. Getting causes from powers. Vous voyez, l'image, d'ailleurs, est parlante. Bon. Or, si nous admettons ces deux présuppositions, n'est-ce pas ? Alors, et je crois qu'Hessfeld a tout à fait raison d'objecter à Mumford et Anjum ce point, il n'est pas possible d'appliquer ces présuppositions aux propriétés fondamentales de la nature pour des raisons tant métaphysiques que physiques. En effet, je cite Hessfeld, on évite certes la conséquence du quiditisme, être obligé de considérer des mondes indiscernables comme qualitativement différents, si et seulement si l'on conçoit les propriétés physiques fondamentales comme produisant spontanément les effets qu'elles peuvent produire. Et c'est là une conception qui, vous l'avouerez, est bien étayée par la physique. En outre, il n'y a pas de temps qui s'écoule entre l'exercice des pouvoirs que sont les propriétés physiques fondamentales et les effets de ces pouvoirs qui permettraient à un facteur externe d'interférer et d'empêcher que l'effet du pouvoir en question ait lieu même si le pouvoir s'exerce. Par exemple, l'effet immédiat de l'exercice du pouvoir qui est une charge élémentaire n'est pas d'attirer ou de repousser d'autres objets chargés, mais d'engendrer un champ électromagnétique dans son voisinage immédiat, à travers lequel ensuite des objets sont attirés ou repoussés. Rien ne peut empêcher qu'une charge élémentaire engendre un champ. Comment des objets physiques se meuvent dans ce champ dépend ensuite, évidemment, d'autres facteurs, c'est-à-dire peut-être influencé par la présence d'autres facteurs. De même, le processus de la réduction de superposition quantique à des propriétés possédant des valeurs numériques définitives ou quasi-définitives, comme la désintégration radioactive, n'est pas tel que des facteurs externes contingents puissent interrompre ce processus. Ce processus a lieu spontanément et il ne s'étend pas dans la durée, à travers le temps. Bref, puisque selon la métaphysique des propriétés en tant que pouvoir, l'essence des propriétés est de produire certains effets, la connexion entre la cause et l'effet, et son effet, est une connexion nécessaire. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle pour la propriété en question d'engendrer l'effet en question, pour autant qu'il s'agisse d'une propriété fondamentale. Fin de citation du texte de Hessfeld de 2009 que je vous ai indiqué dans la bibliographie. Donc si Hessfeld a raison, et à mon avis il a plutôt raison, cela veut dire qu'en proposant un dispositionnalisme causal, on croit pouvoir éviter les inconvénients du nécessitarisme en défendant ce que Mumford et Anjoum appellent dans leur livre une ontologie vectorielle des dispositions dans laquelle les propriétés sont conçues comme des groupes de pouvoir provoquant une circulation causale continue, passing powers around, et la modalité sur le modèle de la normativité et de l'intentionnalité, c'est aussi ce qu'il préconise. Je me demande que, ce faisant, plutôt qu'un pas en avant, on n'en a peut-être pas fait trois en arrière, en se rapprochant dangereusement de ce que le modèle médiéval des dispositions et autres vertus normatives avait de pire, amicus Mumfordi, mais je suis encore plus amie de la vérité, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Donc, il me pardonnera, mais là, je ne peux pas suivre. Et il me semble que ce n'est pas en prétendant qu'on perçoit ces causes directement dans l'expérience, je cite, même si on ne peut pas les analyser, je cite encore, et en se réfugiant dans l'idée, je cite, de modalité primitive irréductible, que l'on parviendra vraiment à rassurer sur le caractère, je cite, non problématique du projet, à tout le moins qu'on réussira à nous donner les éléments que nous recherchons pour identifier la nature essentiellement dispositionnelle de nos propriétés. Et je crois que sur ce plan, Alexander Bird a eu raison d'objecter d'emblée, dès 2007, vous voyez, puisque ce texte est ultérieur, n'est-ce pas, mais dans l'appendice qu'il fait, où il discute dans Nature's Metaphysics la position de Mumford, Bird fait remarquer que, et je crois qu'il a tout à fait raison de lui objecter ce point, que les lois doivent s'entendre en un sens prescriptif plutôt que descriptif, et qu'il a tort par ailleurs de soutenir que la science n'aurait pas besoin de concepts unifiés des lois. Enfin, on voit mal comment les pouvoirs causaux pourraient à eux seuls se suffire et nous dispenser de lois. Nous avons besoin de lois, mais oui, nous avons besoin de lois, et probablement même si le dispositionnalisme est en partie correct, de lois non pas contingentes, mais pour certaines d'entre elles, au moins nécessaires. J'en viens donc à ce point. Qu'entend-on au juste, ce sera mon dernier point, en disant que les lois de la nature sont métaphysiquement nécessaires. On peut entendre au moins de trois façons l'idée selon laquelle les lois de la nature seraient métaphysiquement nécessaires. Elles peuvent l'être, premièrement, parce qu'elles décrivent les essences ou les natures des espèces qui se comportent d'une certaine façon. Ces essences incluent donc des propriétés dispositionnelles et peuvent aussi inclure des propriétés irréductiblement catégoriques qui déterminent non seulement ce que sont les choses, mais, vous l'avez compris, ce qu'elles sont, ce qu'elles font. C'est la conception, nous l'avons vu, de l'essentialisme de l'espèce. Deuxièmement, les lois peuvent être métaphysiquement nécessaires en vertu simplement, dirais-je, de considérations à la Kripke-Putnam sur la manière dont nous identifions les espèces et ce qui en découle, étant donné, par exemple, la prémisse que l'eau va de pair avec une certaine structure chimique, eh bien, la science peut nous dire que les faits mêmes qui rendent purement et simplement possible l'existence de la structure garantissent que la structure est disposée à se comporter d'une certaine façon. Partant, certaines lois sont métaphysiquement nécessaires, mais en dernière instance, quelles sont les lois qui ont ce statut est une question qu'il appartient a posteriori donc, vous voyez, aux sciences empiriques de déterminer. Et c'est l'argument justement que propose en la circonstance de développer un auteur comme Alexander Bird le raisonnement qu'il appelle de Brick et de Brock, piecemeal argument. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Troisième manière dont on peut concevoir l'idée sur laquelle les lois seraient métaphysiquement nécessaires, eh bien, ce serait en considérant que les propriétés sont, pour l'essentiel, des collections de pouvoirs causaux. Autrement dit, vous voyez, c'est si on suit une perspective beaucoup plus proche de celle de Sidney Shoemaker, qui consiste à dire ceci, la propriété d'avoir une certaine structure atomique consiste simplement dans le fait d'avoir certaines dispositions comportementales, donc vous suivez la conception dispositionnaliste des propriétés, elle fait le lien entre les propriétés qui énoncent les lois métaphysiquement nécessaires parce que ce sont, en un sens, des idées partielles. Alors, étant entendu qu'il n'est pas bon, pour les raisons que nous venons de voir, n'est-ce pas, de défendre jusqu'au bout la première position, cela aurait-il un sens de défendre la deuxième ou la troisième, voire les deux, en les combinant. Ce que ces conceptions ont en commun, vous le noterez, toutes les trois, n'est-ce pas, c'est de considérer que les énoncés que nous faisons sur les lois sont vrais en vertu des espèces de propriétés auxquelles ces énoncés font référence. Et donc, de fonder la nécessité des lois de la nature dans les natures des espèces ou les propriétés du monde, plutôt que de les voir comme en quelque sorte imposées arbitrairement aux choses ou découlant de faits réels. Donc on répond, vous voyez, je répète, au problème de l'identification à la von Frassen en citant ces espèces ou ces propriétés. La nécessité des lois s'identifie à la nécessité que les objets se comportent conformément à ces natures. Les lois causales, écrit Brian Ellis, ne sont pas des généralisations universelles contingentes sur la manière dont les choses se comportent actuellement, ce sont des vérités nécessaires sur la manière dont elles sont intrinsèquement disposées à se comporter. Les lois qui s'appliquent aux choses de ces espèces sont directement fondées dans leurs propriétés dispositionnelles naturelles, au sens où les propriétés en sont les vérifacteurs. Ces propriétés sont des pouvoirs causaux actifs, dit-il encore, qui déterminent ce que feront les objets, ainsi que ce qu'ils sont. Mais, de façon générale, pourquoi faudrait-il trouver à redire à l'idée que des lois puissent être nécessaires, bien que seulement connaissables, a priori? Ce devrait même être, dans certains cas, quelque chose de relativement familier. Mais il n'est guère difficile de montrer aussi que certaines lois sont nécessaires, bien qu'elles aient toutes les apparences de la contingence. Cette nuance « certaines lois », évidemment, est d'importance, parce que cela voudrait dire que nous ne sommes pas obligés de nier que les lois fondamentales sont contingentes. C'est un point sur lequel Sidney Shoemaker a beaucoup insisté. Prenons le cas de cette relation dont on peut montrer qu'elle vaut entre l'existence du sel, chlorure de sodium, et la loi selon laquelle le sel se dissout dans l'eau. La loi sous-jacente dans ce cas est la loi de Coulomb, qui régit à la fois l'attraction électrostatique requise pour que le sel existe et qui est également suffisante pour assurer que le sel se dissolve dans l'eau. À l'évidence, la loi selon laquelle le sel se dissout dans l'eau est a posteriori, et à première vue, elle semble tout à fait contingente. Mais on peut montrer qu'elle est nécessaire, même si nous postulons que les lois sous-jacentes sont contingentes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que certains tirent argument de ce fait pour souligner l'affinité qu'il pourrait y avoir, et ceci rejoint l'une des questions que j'ai commencé à examiner dans mon cours tout à l'heure, l'affinité qu'il pourrait y avoir entre la métaphysique et une certaine forme de naturalisme. Alexander Bird fait ainsi remarquer que « naturalisme et métaphysique vont de pair », dit-il, car, je le cite, « la science ne nous dit pas seulement quelles sont les lois de la nature et quelles propriétés existent, mais ce que c'est que d'être une propriété ou d'être une loi de la nature. Les lois de la nature, dit-il, sont métaphysiquement nécessaires. Les propriétés ont des caractéristiques modales importantes et ce que l'on a coutume d'appeler nécessité naturelle est en fait métaphysique. On a séparé, ajoute-t-il, les courants naturalistes et métaphysiques dans la philosophie récente, parce qu'il y a diverses raisons historiques de penser qu'elles font mauvais ménage. Songeons à l'application du naturalisme à l'épistémologie par Quine. Mais Bird pense justement qu'on doit au contraire montrer la fécondité des liens entre le naturalisme et la métaphysique. Quine dit que c'est notre conception des propositions philosophiques comme nécessaire qui est erroné et que nous devrions plutôt les voir comme plus proches de la science. Bird suggère que c'est notre conception de maintes vérités scientifiques comme contingentes qui est erronée. Maintes vérités scientifiques sont métaphysiquement nécessaires et à cet égard proches peut-être des vérités métaphysiques. En tout cas, c'est sur ce point aussi qu'insiste Sidney Shoemaker, pour qui les propriétés se définissent par la manière dont elles se combinent pour fixer les pouvoirs causaux des choses. Comme lorsque le fait d'avoir des propriétés d'être en métal et d'être aiguisé se combine, vous vous souvenez, pour donner à un couteau le pouvoir de couper. Rien de tout ceci n'implique que ces lois soient nécessaires. On peut, dans un esprit jungien, les tenir pour parfaitement contingentes. Ainsi, du reste, que non déterministes ou strictes, mais probabilistes et susceptibles de rencontrer des exceptions. Nous savons en effet qu'en suivant la théorie des perturbations, on peut expliquer que les situations exceptionnelles constituent en fait la règle. C'est un point sur lequel Max Kistler avait beaucoup insisté dans son livre sur la causalité et les lois de la nature. Par exemple, des masses peuvent figurer dans des lois relativement différentes, telles que celles d'un univers newtonien, où les choses qui accélèrent n'augmentent pas automatiquement leur masse, comme c'est le cas dans notre monde. C'est un point sur lequel, vous vous souvenez, je m'étais arrêtée l'autre fois. Donc, si nous avons un certain nombre de propriétés, de critères qui nous permettent de cette manière, n'est-ce pas, de distinguer ce qu'est une propriété de ce qu'est une pseudo-propriété, alors, en effet, nous sommes peut-être en mesure, à condition de dire que toutes les propriétés intrinsèques sont dispositionnelles car elles sont causales, dans la mesure où les interactions auxquelles elles donnent lieu sont la seule raison que nous avons de postuler leur existence. Deuxièmement, les dispositions sont des propriétés et les propriétés joue bien des rôles causaux dans les interactions d'une chose avec le monde qui l'entoure. Néanmoins, on n'est pas pour cela obligé, vous voyez, de déconnecter en quelque sorte les dispositions de leur ancrage nomologique. Comme le rappelle Shoemaker, nous ne pouvons éliminer les lois et confier toute leur charge explicative au pouvoir conditionnel des objets parce que nous avons besoin tout simplement de lois pour déterminer quelle collection de pouvoirs conditionnels constitue des propriétés réelles. Certaines collections de pouvoirs conditionnels ont une unité causale. Elles covarieront en fonction des lois causales. C'est à cette condition que l'on peut, et c'est la première idée centrale que je voudrais déjà mettre en lumière, éviter, me semble-t-il, une séparation, à mon sens désastreuse, entre l'essence de la propriété, bref, ce qu'il a défini comme tel, n'est-ce pas, et les relations causales et nomologiques dans lesquelles la propriété en question figure. Si cette position est correcte, alors peut-être avons-nous déjà trouvé un moyen d'écarter les dilemmes auxquels se heurtent auquel se heurte, une analyse qui voudrait conserver du dispositionnalisme ce qu'il a de bon, tout en évitant évidemment ce qu'il a de mauvais. Et donc, de continuer à défendre néanmoins une certaine réalité des dispositions. Je vous rappelle quel était ce dilemme, nous devrions plutôt dire ce trilemme, qui doit de façon obsessionnelle résonner dans notre tête. Ou bien on définit les dispositions comme des propriétés intrinsèques et suffisamment autonomes pour exercer à elles seules un pouvoir causal, auquel cas on ne sort guère d'une conception aristotélicienne ou médiévale des dispositions, et on court donc le risque de se voir accusé de revenir à la scolastique, de dire qu'il y a de l'intentionnalité partout. Bien. Ou bien on définit les dispositions à partir de leur insertion dans des lois de la nature, auquel cas, si c'est à partir de leur insertion de la nature, évidemment, on court toujours le risque que les dispositions apparaissent moins en définitive comme des propriétés que comme des assemblages de causes, n'est-ce pas ? Ou des processus relationnels ou événementiels, voire des modes de présentation des phénomènes. Et à ce moment-là, elles risquent de perdre leur efficacité causale. Troisième solution, on souscrit à une forme de dispositionnalisme essentialiste, on leur reconnaît cette capacité en les présentant donc comme les essences réelles des espèces naturelles des processus qu'elles décrivent, suffisantes pour sous-tendre les lois de la nature, voire pour déterminer quelles lois existent et comment les choses sont disposées à se comporter. Mais vous voyez, j'espère vous l'avoir amplement montré, enfin j'espère, vous me direz ensuite, justement, si vous pensez qu'il y a encore des arguments en faveur du dispositionnisme essentialiste, je crois que cela nous imposerait de revenir à une conception trop peu satisfaisante des lois elles-mêmes. Et donc, même si, évidemment, si la tentation à laquelle nous sommes alors évidemment confrontés est grande de renoncer à une position réaliste forte, et donc de considérer au fond, comme certains le font, oh, peu importe, on n'est peut-être pas obligé de décider si les propriétés sont dispositionnelles ou pas, il suffit peut-être de dire, de manière un petit peu neutraliste, bon, eh bien, les propriétés, au fond, sont. Peu importe qu'elle soit dispositionnelle ou catégorique, peu importe qu'on réussisse ou pas à le décider. Je disais que si nous suivons plutôt la voie que je commence à suggérer, il me semble qu'on peut parvenir, sans aborder dans les trop grands mystères du dispositionnalisme causal, à s'orienter déjà vers une conception des lois qui permettrait déjà de mieux comprendre, par exemple, pourquoi les lois ont ce qui est souhaitable, vous voyez, à la fois une valeur descriptive, donc de régularité, et prescriptive, de régulation, qu'elles n'ont pas la rigidité de l'airain, que des exceptions sont souvent possibles, voire constituent la règle, et pourquoi aussi, ce qui me paraît être la moindre des choses, elles peuvent évoluer. Ainsi, il me semble qu'on peut mieux comprendre le rôle exact que jouent respectivement les dispositions et les lois dans l'intelligibilité de la nature. Les dispositions trouveraient leur intelligibilité dans ce que j'appellerais la nécessité conditionnelle de la loi. Mais la loi, à son tour, ne serait une description vraie du monde qu'à condition de se fonder sur ce que les choses peuvent faire au sens dispositionnel et pas seulement possibiliste du terme. J'insiste sur le caractère de conditionnalité qui s'attache à la nécessité des lois, qui est aussi un point sur lequel, incidemment, insiste Alexander Bird dans la réponse qu'il fait à Statis Psilos, notamment, qui lui reproche de développer cette conception. Qui est d'ailleurs un point qu'avait souligné, qu'avait bien vu Charles Peirce lorsqu'il voulait rendre compte du caractère simultanément descriptif et prescriptif de ce qu'il appelait le « would-be » des lois, et pas simplement leur « will-be » ou leur « maybe », hein, des caractères donc de « would-be », des lois dispositionnelles, et des éléments aussi tichistes ou tuquistes ou de hasard qu'il jugeait nécessaire d'introduire dans sa métaphysique sunéquiste et évolutionnaire, pour expliquer comment, tout en obéissant au principe de la continuité, les lois conçues comme des habitudes ou dispositions générales et indéterminées ne suivent pas, disait-il, la nécessité de l'airain au cours de l'évolution, mais une nécessité conditionnelle qui admet donc une part de spontanéité radicale ou de hasard, comme celle, dit-il, du chaos germinal d'où elles sont issues, là on n'est pas obligé de le suivre, mais aussi des écarts ou des changements d'habitude, ceci s'entendant néanmoins toujours, c'est un point, me semble-t-il, important, dans le cadre des lois probabilistes conçues sur un modèle moins fréquentiste que propensionniste, comme les would-be d'un dé, puisque c'est toujours l'exemple du dé que Peirce prend pour illustrer justement ce point. Donc, si l'on veut bien admettre que l'on a un peu mieux éclairé désormais la manière dont le réalisme des dispositions rendrait intelligible la nature des liens causaux et nomologiques qu'entretiennent les choses et les propriétés du monde, évidemment, cela ne signifie pas que nous n'ayons pas encore un gros travail à mener pour comprendre mieux en quoi cette réalité des propriétés elles-mêmes consiste, et si en particulier, et vous vous doutez que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'essentialisme va m'amener sur ce point, si nous pouvons vraiment rendre compte de la nature ou de l'identité des dites propriétés en renonçant à toute forme d'essentialisme. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.